C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Hawick, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 9:04, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Dans les années 60, les postes de radio de l'Europe du Nord vont vibrer de nouvelles voix, de nouveaux sons, de nouvelles musiques. On les a appelés Offshore Radio, Pirate Radio ou Marine Broadcasters. Mais quelles que furent les expressions par lesquelles on les désignait, ces DJ de la haute mer, qui opéraient depuis des bateaux ou des forts marins abandonnés, ont écrit d'incroyables pages d'aventures radiophoniques et maritimes.
Sur les ondes, l'année 1963 fut relativement calme. Après une offensive de plusieurs gouvernements scandinaves, il ne restait plus que deux radios offshore en activité, Veronica et Radio Seed. Mais plusieurs projets étaient en gestation et allaient voir le jour l'année suivante. 1964 restera sans doute l'année la plus marquante de l'histoire des radios offshore. Elle verra 7 stations maritimes arriver sur les ondes, dont 6 face aux côtes britanniques. Parmi elles, la plus célèbre d'entre toutes, Radio Caroline. La légende veut que Ronan O'Reilly, le fondateur de Radio Caroline, eut l'idée de créer une station offshore consécutivement au refus des médias en place de programmer les artistes dont il assurait la promotion. Certes, certaines radios nationales, et en particulier la BBC, avaient du mal à s'ouvrir à la musique rock et pop. Mais Ronan O'Reilly n'était pas le seul à s'intéresser à la radio commerciale. Plusieurs hommes d'affaires n'avaient pas oublié le succès rencontré par certaines radios privées d'avant-guerre. Et surtout, l'expérience menée par Leonard Plugge, qui, avec The International Broadcasting Company, avait acheté du temps d'antenne sur des radios continentales comme Radio Normandie ou Radio Luxembourg. Ces programmes avaient connu un incontestable succès. En 1938, un sondage avait montré que le programme du dimanche après-midi de Radio Luxembourg, s'adressant aux Britanniques, était plus écouté que celui de la BBC. Les monopoles d'État instaurés après-guerre dans presque tous les pays européens avaient considérablement restreint le paysage radiophonique. Bien sûr, il restait quelques stations privées comme Radio Andorre, Radio Monte Carlo ou Radio Luxembourg. Mais la Grande-Bretagne, qui s'avérait être le marché publicitaire le plus prometteur d'Europe, restait totalement fermée aux médias privés. Dès la fin de la guerre, des hommes d'affaires s'activèrent et tentèrent de faire pression sur les politiques, sans succès. Alors, ils se tournèrent vers l'Irlande et l'île de Man. Mais les parlements régionaux de ces deux territoires n'osèrent pas défier Londres sur ce terrain. La situation britannique intéressait même au-delà de ses frontières, puisque Gordon McLendon, patron d'un groupe de radio aux États-Unis, avait entamé des discussions avec des hommes d'affaires du Royaume-Uni. Le blocage politique anglais amènera McLendon à se tourner vers un autre projet, la première station offshore suédoise, Radio Nord, en 1959. En 1960, le gouvernement britannique mit en place la commission Pilkington, qui devait mener une étude sur la pertinence d'ouvrir le secteur de la radio et télédiffusion à des opérateurs privés. Une centaine de projets se firent connaître, mais en juin 1962, ce fut la douche froide. Le rapport Pilkington concluait qu'il n'y avait pas une demande particulière du public britannique pour la radio privée et recommandait plutôt que la BBC déploie un réseau local. La commission reprenait notamment certains arguments développés par des parlementaires et la BBC, qui mettaient en garde l'influence que la marchandisation d'un programme aurait sur sa qualité. D'autres paramètres vont concourir à la véritable déferlante de radio offshore que va connaître la Grande-Bretagne en cette année 1964. Le succès rencontré par les 4 premières radios maritimes européennes a aiguisé les appétits de certains entrepreneurs. Mais surtout, l'apparition et la généralisation des postes de radio miniaturisés, les transistors, rend l'écoute de la radio de plus en plus accessible partout. Cette évolution technologique coïncide avec la naissance de la pop anglaise et l'arrivée de groupes qui suscitent d'emblée un énorme engouement. The Animals, The Kinks, The Rolling Stones et bien sûr The Beatles. Si la BBC avait une approche très conservatrice de son rôle, elle était aussi liée au Musicians Union et à la Performing Rights Society, deux organisations représentant les intérêts des musiciens. Et elle était contrainte de diffuser majoritairement des œuvres jouées en direct. La place réservée aux musiques enregistrées était très limitée. Les artistes que le public était en train de découvrir et de plébisciter passaient donc très peu sur les ondes nationales. Alors qu'en France, Europe 1 avait lancé l'émission quotidienne Salut les copains, qui connaissait un énorme succès auprès des jeunes, leurs équivalents britanniques devaient se brancher sur Radio Luxembourg, qui n'était pas toujours facile à capter, pour pouvoir écouter une musique dont leur propre pays était en train de devenir l'un des fers de lance. Quel paradoxe ! Enfin, la limite des eaux territoriales, finalement assez proche des côtes, 3000 nautiques, soit un peu plus de 5 km, rend les bateaux émetteurs assez accessibles. Les radios offshore du nord de l'Europe l'avaient prouvé. Dans ces conditions, Ronan O'Reilly n'eut aucune difficulté à trouver des bailleurs de fonds pour son projet de radio offshore. Dans le port de Greynor, les travaux d'aménagement du Fredericia, rebaptisé MV Caroline, se poursuivent. Mais l'énorme mât de 165 pieds, près de 50 mètres de haut, fut assez vite remarqué par la population et la presse locale. La famille O'Reilly déclara que le bateau était destiné à faire de la recherche maritime en profondeur, et la curiosité des journalistes et des habitants fut satisfaite. Au début du mois de mars, après avoir séjourné en Espagne pour des réparations, le Mi Amigo, destiné à accueillir Radio Atlanta, arriva à Greynor en vue de l'accord conclu entre la famille O'Reilly et la société Project Atlanta. Mais une première manœuvre déloyale du clan O'Reilly vint ternir l'apparente bonne entente entre les deux projets. La direction de Greynor demanda à l'équipage du Mi Amigo de déplacer le bateau hors des installations portuaires pendant plusieurs jours, empêchant les équipes de travailler, alors que le MV Caroline continuait à être équipé. En représailles, Alan Crawford recommanda à Ronan O'Reilly des techniciens manquant d'expérience, ce que Radio Caroline paiera plus tard par des problèmes d'interférence entre son émetteur et des chaînes de télévision irlandaises. L'équipe de Ronan O'Reilly mit aussi sur pied une fausse opération d'arraisonnement du Mi Amigo, au cours de laquelle deux magnétophones disparurent et furent retrouvés plus tard à bord du MV Caroline. Le résultat de tous ces coups bas fut que l'équipe de Ronan O'Reilly avait pris de l'avance. Le 23 mars 1964, le MV Caroline était prêt à quitter Graynor. Depuis le Mi-Amigo, Alan Crawford commença à avoir des doutes sur les intentions de Ronan O'Reilly quant au partage de la zone d'émission conclue quelque temps plus tôt. Il devina que le MV Caroline irait plutôt vers le sud de l'Angleterre, commercialement plus intéressant grâce à Londres, alors qu'il aurait dû mouiller au nord. Le MV Caroline prit donc la mer et affirma aux autorités maritimes qu'il naviguait vers l'Espagne. Mais le 25 mars, il changea de cap et entra dans la Manche, suscitant la curiosité des gardes-côtes de tout le sud de l'Angleterre. Ils demandèrent plusieurs fois au capitaine d'indiquer clairement sa destination. Celui-ci répondit qu'il naviguait sous les ordres scellés du propriétaire et que sa destination finale ne lui avait pas encore été communiquée. Un destroyer de la Royal Navy fut alors envoyé pour observer de près le MV Caroline. Sur le bateau, la tension monta d'un cran. Le 27 mars au soir, le MV Caroline se trouvait à Harwich, sur la côte de l'Essex. Il avait atteint sa destination et jeta l'ancre à 3,5 milles au-delà du rivage. Des essais de transmission débutèrent le soir même vers 23 heures. Le lendemain, 28 mars, à midi, Radio Caroline débutait ses programmes. Et ce fut Simon Dee qui ouvrit l'antenne, bientôt rejoint par Christopher Moore. Le programme avait été préenregistré. Ses premières minutes constituent un morceau d'histoire.
This is Radio Caroline on 199, your all-day music station. We are on the air every day from 6 in the morning to 6 at night. The time right now is 1 minute past 12, and that means it's time for Christopher Moore.
Hello and happy Easter to all of you. This is Christopher Moore with the first record program on Radio Caroline. The first record is by the Rolling Stones, and I'd like to play it for all of the people who work to put the station on the air, and particularly for Ronan.
Times, lundi 30 mars 1964, Radio Pirate en action, de notre correspondant Felix Toe, 29 mars. Une station émettrice appelée Radio Caroline a commencé à fonctionner ce week-end au large de Felix Toe, dans le Suffolk. Bien que le navire à moteur Caroline, à partir duquel elle opère, puisse être vu depuis la plage, il est à l'abri de la loi britannique tant qu'il reste au-delà des limites territoriales. Un haut responsable des postes a déclaré que la question relevait du Conseil des ministres européens. Radio Caroline a commencé à émettre hier en ondes moyennes sur 199 mètres et a cessé ses émissions à 18 heures. Elle a repris aujourd'hui à 6 heures du matin et il semble qu'elle continuera à diffuser quotidiennement 12 heures d'affilée de la musique populaire et légère. La Poste a déclaré hier soir que les tests avaient causé une perturbation assez sérieuse des communications navire-terre de la station de radio de Northumberland. Cette station, située au large de Margate et Broadstairs, dans le Kent, dessert les navires dans le détroit du Pas-de-Calais et l'estuaire de la Tamise. Mr. Perrin, attaché de presse de Radio Caroline, a déclaré qu'ils enquêteraient sur la plainte et prendraient toutes les mesures nécessaires. Mr. O'Reilly, responsable de Radio Caroline, a déclaré samedi qu'il avait clairement entendu les émissions à Chancery Lane à l'aide d'un transistor. Interrogé sur une récente déclaration de Mr. Bovins, directeur général des postes, selon laquelle les émissions contreviendraient aux réglementations internationales et mettraient en danger les accords de partage des fréquences radio, Ronan O'Reilly a déclaré « Nous ne contrevenons à aucune réglementation internationale ». Le Daily Mail du même jour rapporte les alertes lancées par les gardes-côtes depuis le début des émissions. The Daily Mail, 30 mars 1964. Une menace radio pour les sauvetages en mer, par Michael O'Flaherty. Les gardes-côtes ont protesté hier soir contre la musique pop de la station de radio flottante Caroline qui pourrait gêner les opérations de sauvetage en mer. Leur avertissement est intervenu après une journée d'interférences dans les communications entre les stations des gardes-côtes et les bateaux phares autour des côtes sud et est. Radio Caroline est actuellement basée à 6 milles au large de Felixstowe, en dehors des eaux territoriales. La station, un navire à passagers converti de 163 tonnes, émet de 6h du matin à 18h depuis samedi dans le cadre de tests de transmission. Les émissions doivent officiellement commencer dans 15 jours. Les hommes à bord des bateaux phares ont entendu de la musique pop sans interruption lorsqu'ils ont tenté de contacter le rivage. Les gardes-côtes protestataires ont déclaré hier soir les fréquences utilisées par Deal, dans le Kent, et Walton-on-the-Naze, dans l'Essex, sont très proches de celles utilisées par Radio Caroline. Les bateaux phares ont été impactés aujourd'hui. Demain, ce pourrait être les canaux de sauvetage, car leurs fréquences sont également très proches. Les gardes-côtes de Deal et Walton ont protesté auprès de Trinity House, qui contrôle l'ensemble des opérations de sauvetage. Trinity House doit soulever la question auprès du directeur général des postes.
This is Radio Caroline on 199, music all through the day. It's 1:01 and we have another hour to go before we let the record players cool off. This end, Chris Moore is playing some music for you.
Come on, come on, hey, 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 yeah.
Dans le même journal, Ronan O'Reilly répond aux accusations de brouillage des communications maritimes par les émissions de Caroline. Radio Caroline opère sur une longueur d'onde basée sur les règlements de Genève de 1959. Cette bande d'onde moyenne de 187 mètres, 1605 kilocycles, à 575 mètres, 525 kHz, est réservée exclusivement à l'usage des stations de radiodiffusion. Nous serions des pirates, nous faisons juste notre travail.
This is Radio Caroline on 199, your all-day music station. Time now is 12:30 and you're listening to an hour of non-stop music. Right now it's Saturday Night Out with The Searchers.
Come on, little girl, let's take it. Come on, little girl.
Shy girl.
couverture médiatique des débuts de Radio Caroline est d'emblée très importante. À partir du 30 mars, il ne se passe pas une journée sans que le Times ou le Daily Mail ne rédige un, voire deux articles sur les débuts de la première radio offshore britannique. Le Daily Mail envoie même un de ses reporters sur le MV Caroline pour interviewer Simon Dee, Chris Moore et le responsable technique de la station qui met en pièces les accusations de brouillage. Entre Caroline et les longueurs d'onde maritimes, il y a au moins cinq autres stations. Deux d'entre elles sont des stations de la BBC. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un se plaint de nous. Dans les pages du même journal, un article est consacré à John Junkin. Il est la première voix du matin sur Caroline, mais il joue aussi un rôle dans le premier film des Beatles, a aussi été un acteur en vue du Theatre Workshop et a également été scénariste pour Peter Sellers.
He's lucky to find a girl like that in a coffee house. All the waitresses I ever get are about 50 and they have adenoids and they say that'll be what a died puts as though I was going to leave the country without paying under a false name. Talking of false names, I don't know if you know, Matt Monro started getting very big in his career when he did an impersonation of Frank Sinatra on a Peter Sellers LP. Frank Sinatra has returned the compliment by recording Matt's big hit, My Kind of Girl, with a fabulous Neil Hefti arrangement and the Count Basie Band. Listen to this.
She walks like an angel walks. She talks like an angel talks. And her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl. She is wise, like an angel's wise, with eyes.
Après les plaintes de brouillage, le General Post Office décida de restreindre aux seules situations d'urgence les communications entre la Terre et le MV Caroline et se tourna vers l'Union internationale des télécommunications pour l'aider à mettre fin aux émissions de la station. L'UIT fit une demande officielle au Panama qui était le lieu d'enregistrement du navire émetteur. À la Chambre des communes aussi, on réagit mal à l'arrivée de Radio Caroline. À côté de la gêne qu'elle était supposée provoquer dans les communications terre-mer, certains parlementaires firent observer que la station pourrait, si elle le voulait, diffuser librement de la propagande subversive ou des contenus obscènes. Le 7 avril, le MV Caroline quitta son lieu de mouillage initial pour se rapprocher de Felixstowe. Le même jour, le Panama lui aurait retiré son pavillon sur demande des autorités britanniques. Quelques jours plus tard, la station fait son entrée au cinéma. À l'époque, chaque projection de film était précédée par la diffusion d'un reportage sur un fait d'actualité. Dans ce cadre, Pathé News projeta dans tout son réseau une séquence consacrée à la nouvelle radio.
Riding at anchor off Harwich and safely outside the 3-mile limit, the innocent-looking ex-ferryboat Caroline is causing quite a stir in official circles. She's a floating broadcasting station, hoping to make a big thing out of commercial radio and waiting for the advertisements to roll in. I'm no pirate, insists Captain Mackay, even if the radio crew are. No danger to his ship so far. Generators supply power for the wireless transmitter. Caroline Radio is on the air 12 hours a day, 6 a.m. to 6 p.m. Between those hours, they think, there's a public large enough to attract local advertising revenue. Crew technicians have comfortable off-duty quarters, and to all indications, Caroline is a happy ship. The radio company believe it's all perfectly decent. In the ship's studio, they broadcast with no more concern than if it were all in broadcasting house.
This is Radio Caroline on 199, England's first commercial radio station. My name's Simon Dee, with you for the next 2 hours. First one off the top of the pile, The Hollies, Rockin' Robin.
C'était les DJ de la haute mer. Cinquième épisode, une émission proposée par Olivier Delaporte.
It'll be interesting to see if the young men behind this adventure can stand up against the Postmaster General, the BBC, International Telecommunications, and all the other opposition.